Cette plaie est très importante pour comprendre Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moïse va dire au peuple, vous allez prendre un petit agneau d'un an, sans tache, il doit être tout blanc, et vous allez l'égorger pour le faire cuire et le manger. Vous allez mettre le sang de cet agneau sur les linteaux de vos portes, les montants et le haut. Et vous allez vous habiller pour partir et faire toutes vos affaires. Et vous mangerez l'agneau debout, en faisant cuire du pain et en retirant le pain avant qu'il soit levé. Vous mangerez le pain sans qu'il soit levé, à peine cuit, azim, sans levure, et vous mangerez des herbes amères parce que vous avez été dans l'amertume en Égypte. Et ce soir-là, vous quitterez l'Égypte. Peine subsidiaire, Dieu dit à Moïse de dire au peuple qu'il demande aux Égyptiens de rendre tout ce que les Égyptiens leur avaient extorqué par l'esclavage et par le vol. Et les Égyptiens, trop contents de voir partir le peuple hébreu, leur donne des biens, de la nourriture, de l'argent et de l'or. Et on attend. Au milieu de la nuit, Dieu envoie son ange qui va arrêter le cœur et faire mourir les premiers-nés mâles des hommes et des animaux. Dans cette nuit du passage de l'ange exterminateur, la Pâque de l'ange, le passage de l'ange. Eh bien, voyez-vous, le petit agneau d'un an tout blanc meurt et les enfants premiers-nés garçons d'Égypte et même les premiers-nés des animaux meurent cette nuit-là. C'est le signe, si vous voulez, de la mort, c'est le signe du péché, c'est le signe des conséquences du péché. Le petit agneau meurt innocent et tous ces hommes sont fils de pécheurs et vivent les conséquences du péché. Voyez. Alors, cette nuit de Pâques est très impressionnante et donc est plus ou moins bien interprétée de nos jours. Certains vont dire, mais donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est très cruel. C'est l'ange exterminateur. Seulement, on oublie que l'homme est très cruel et qu'il fait mourir les bébés. Et Dieu punit l'homme par où il a péché, en laissant ses enfants mourir, enfin en les faisant mourir, mais dans un acte de justice divine qui ne présume pas du salut éternel de ses bébés. Ça, le bon Dieu ne nous a jamais permis de dire que telle âme est en enfer dans la haine de Dieu et de ses frères. On parlait des limbes. Et maintenant, on parle de la miséricorde de Dieu, ce qui est exactement la même chose, c'est-à-dire comment un enfant, un bébé, avant l'âge de raison, choisit d'aimer, puisque son intelligence et sa volonté ne sont pas, n'ont pas de connaissance. Nous croyons que le baptême offre une lumière qui éclaire l'intelligence et la volonté, et donc pour nous, un bébé baptisé choisit l'amour. Mais les autres qui n'ont pas ce rituel du baptême, on ne sait pas. Et le pape Jean-Paul II a tranché la question de manière très fine en disant on les recommande à la miséricorde de Dieu. On ne se prononce pas. Avant, on disait qu'ils étaient entre le ciel et l'enfer, qu'ils étaient dans un bonheur naturel. On ne sait pas. C'est une grande humilité de l'Église catholique, pour le coup. Moi qui n'arrête pas de vous faire des leçons, On ne sait pas. Eh bien, le roi d'Égypte voit son fils aîné mourir. Ses officiers, le peuple, ils hurlent dans cette nuit. Les enfants meurent. Faites partir ce peuple, faites partir ce peuple, leur Dieu est tout puissant. Et voilà que les Hébreux sont là, et que le père de famille habillé pour partir en voyage, le jeune enfant qui dit à son père « Pourquoi nous mangeons cet agneau ? Parce que Dieu nous fait partir d'Égypte. » Et ce repas pascal, les Hébreux vont le manger jusqu'au jeudi saint. Avec Jésus. Le Benjamin de la famille doit demander au père de famille, au repas pascal, pourquoi on est debout, habillé comme pour partir en voyage, le bâton à la main, et qu'on mange l'agneau. Eh bien, parce que nos ancêtres sont quittés l'Égypte comme cela. Imaginez ce peuple qui part avec les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, les bébés, les carrioles, les troupeaux, et ils partent. Et ils partent dans le désert. Et Pharaon, au bout de quelques heures seulement, se dit « Eh bien, je vais les tuer. Je vais en ramener, mais je vais leur envoyer mon armée. » Et voilà que le peuple avance, avec Moïse devant, terrorisé. Et là apparaît une nuée, une tornade nuageuse, une nuée qui guide le peuple. Et ils marchent derrière cette nuée, qui leur ouvre le chemin, mais qui les conduit dans une impasse. Enfin, le miracle est tellement impressionnant, vous voyez un tourbillon devant vous, énorme, qui ne vous anéantit pas, qui ne vous touche pas, mais qui est devant vous et qui avance. Et le peuple suit ce tourbillon, cette tornade et cette nuée où Dieu les guide. Et ils se retrouvent devant le bras de mer de la mer Rouge, la mer des joncs, mais qui n'était pas à 50 cm d'eau. Pourquoi ? Eh bien parce que quand ils sont là, et ils ont l'armée égyptienne qui arrive avec des chars et des chevaux, la tornade, la nuée se déplace, contourne la colonne du peuple et se met entre l'armée d'Égypte et le peuple hébreu, aveugle l'armée d'Égypte qui ne peut plus avancer. Et là, Dieu dit à Moïse d'ouvrir les bras. Il ouvre les bras et voilà que ce bras de mer s'ouvre devant Moïse et qu'un vent brûlant dessèche le sol qui n'est plus boueux parce que le fond d'un bras de mer c'est de la boue hein. Et Moïse donne l'ordre au peuple de traverser ce bras de mer et imaginez eux, ils sont en train de marcher sur du sol dur et sec et avec de chaque côté une muraille d'eau. Et ils passent avec leur chariot, avec leurs bêtes, sans s'enfoncer dans la boue. Et ils passent de l'autre côté. On estime à 600 000 Hébreux au moins. Parce que au bout de 440 ans de présence en Égypte du Nord, on estime qu'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants et les vieillards. Bon. Arrivé de l'autre côté, la nuée se déplace et laisse l'armée d'Égypte rentrer dans ce couloir d'eau. Et ils foncent, ils voient que c'est sec, les chevaux galopent sur cette terre desséchée. Et là, Moïse ferme ses bras de l'autre côté de la mer. Et vous avez la muraille d'eau qui s'effondre et qui va noyer chars et cavaliers et fantassins. Donc quand ils vous disent, oh, ils étaient peut-être 3000, ils ont été poursuivis par environ une centaine de chars qui se sont noyés parce que les roues se sont pris dans la boue des 50 cm d'eau, et les pauvres, ils n'avaient pas mangé le matin, ils étaient très faibles, et ils ont mis la tête dans l'eau, et ils sont morts noyés comme des autruches, au lieu de rester debout et de survivre, enfin voilà. Non, ils ont été noyés par plusieurs mètres d'eau. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Et toute l'histoire hébraïque, et si ça c'est faux, tout le reste est faux. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et là, le mot Pâques, ce n'est plus seulement le passage de l'ange, mais c'est le passage de la mer Rouge. Passage de l'esclavage à la liberté, et passage de la mort à la vie, parce qu'ils auraient dû mourir comme l'agneau pascal, l'agneau du passage, l'agneau pascal, et ils auraient dû mourir noyés comme les pêcheurs de l'armée égyptienne. Et le matin, au petit matin, la mer rendit les cadavres des soldats égyptiens. Et là, vous avez, dans la nuit de Pâques, un chant un peu particulier, parce que nous, ça fait 2000 ans, enfin, et du temps de Moïse, c'est environ 1200 ans avant Jésus-Christ, et on dit « Vive le Seigneur qui a fait mourir chevaux et cavaliers !» Et youpi, n'est-ce pas? Et youpi, ils sont morts. Youpi, ils sont morts, parce qu'ils voulaient nous tuer aussi. Vous voyez? Mais c'est assez cocasse d'entendre les gens, que ce soit en français ou en latin, vive le Seigneur qui a fait mourir chevaux et cavaliers. Voilà. Mais c'est un peu rude hein, comme scène, hein, entre nous souhaitons. Voilà donc cette Pâque, vous voyez, impressionnante. Et voici que le peuple se retrouve en Terre Sainte. Là, je vais m'arrêter par rapport à notre cours de catéchisme pour terminer sur Noël. Voilà ce qui se passe. Dieu dit à Moïse dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Le Seigneur ton Dieu te suscitera un prophète, celui qui parle au nom de Dieu, de ta nation et d'entre tes frères, comme moi. C'est lui que tu écouteras. Pour Abraham, Isaac et Jacob, c'est celui qui dominera le monde, celui qui doit venir. Ici, Dieu parle d'un prophète. Et vous avez entendu dimanche que les docteurs de la loi demandent à Saint Jean-Baptiste: es-tu le Sauveur, le Messie? Ou es-tu le prophète dont nous a parlé Moïse? Ou es-tu Élie? Mais ça, je ne peux pas vous en parler tout de suite. C'est plus tard, parce qu'à la fin des temps, Élie doit revenir. Et quand Jésus-Christ dit, notre Seigneur Jésus-Christ dit que Jean-Baptiste est venu dans la spiritualité et la force d'Élie, malheureusement pour nous et pour les rationalistes, Jean-Baptiste dit bien qu'il n'est pas Élie. Et Jean-Baptiste ne dit pas qu'Élie ne doit pas venir, et que c'est lui, que c'était une image, et que c'est lui qui vient dans la vertu d'Élie. Parce que jusqu'à de nos jours, et en passant par tous les docteurs de l'Église et tous les pères de l'Église, à la fin des temps, le patriarche Hénoch et le prophète Élie viendront perturber le règne mondial et universel de l'Antéchrist. Hénoch, pour évangéliser les païens, les animistes, les hindous et les bouddhistes, et Élie, pour évangéliser les juifs et les musulmans, qui ont la tradition biblique. Tout ça à la barbe de l'Antéchrist, qui finira par les tuer. Parce que le pauvre Hénoch et le pauvre Élie, jusqu'à présent, sont vivants. Je vous le dis en passant, hein, parce que je vous dis tout. Parce que vous devrez, peut-être qu'un jour, vous tomberez sur un livre, vous tomberez sur une représentation dans une église, dans une cathédrale, qui met de côté Hénoch et Élie. Je passe. C'est trop mystique, c'est trop surnaturel. Bon. Par contre, là, voyez-vous, Moïse dit bien qu'il y aura un prophète qui va venir. Et donc, les docteurs de la loi posent la question à Jean-Baptiste. Hein. Mais quand, dans l'Évangile, on voit que les docteurs de la loi posent cette question à Jean-Baptiste, alors que cette prophétie date du Deutéronome, c'est-à-dire d'environ 1400-1200 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire que la synagogue, il y a 2000 ans, tenait pour certain la prophétie de Moïse, qui avait elle-même 1200 ans. Alors, qui serions-nous pour mépriser ce passage du Deutéronome? Que des juifs pieux, des pharisiens, des docteurs de la loi et des lévites considéraient comme certains, alors qu'ils étaient à 1200 ans de distance de cette prophétie. Nous, en 2015, pourquoi aurions-nous du mépris pour une prophétie de 3200 ans qui s'est réalisée il y a 2000 ans? Car Jésus est à la fois le prophète qui était attendu et le Messie qui était attendu. Voilà. Et voilà, dans les Actes des Apôtres, il est dit par saint Luc, « Afin que viennent des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous avait été prédit, Jésus-Christ. Car Moïse a dit, » je crois que c'est saint Pierre qui parle hein, dans les Actes des Apôtres, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Vous avez saint Pierre dans les Actes des Apôtres qui cite le Deutéronome. C'est magnifique. À 1000 ans de distance, c'est magnifique. Le prophète Daniel. Sache donc, chapitre 9, versets 25 et 26. Sache donc et remarque bien. Depuis que sortira la parole pour que de nouveau soit bâti Jérusalem, jusqu'au Messie roi, jusqu'au Christ roi, jusqu'au Christ chef, jusqu'à loin du Seigneur. Christ, ça veut dire celui qui reçoit l'onction de Dieu. Il y aura 7 semaines et 62 semaines. Et de nouveau sera bâtie la place publique et les murailles dans les temps difficiles. Et après 62 semaines, le Christ sera mis à mort. Les Juifs, quand ils lisent le livre de Daniel, savent que le Sauveur, que le Christ, devait être mis à mort. Et en fait, du temps du Christ, ils refusent cet aspect du Messie parce que ça les attriste. Et qui ne veulent pas que le Messie meure. Même saint Pierre dit « Oh non, tu ne mourras pas, car le Christ vit pour toujours. » Ah oui, mais Daniel a bien dit qu'il souffrirait et qu'il mourrait. Et il ne sera pas son peuple, le peuple qui doit le renier. Et un peuple avec un chef qui doit venir détruira la cité et le sanctuaire. Alors, quand Daniel dit ça, lui, il vit environ 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, on dit, mais non, c'est pas Daniel qui l'a dit. Ça a été écrit après, quand l'empereur Titus a détruit Jérusalem. On a rajouté ça dans Daniel. Sauf qu'on va trouver des versions de Daniel qui sont de 200 ans avant Jésus-Christ. Or, Daniel dit qu'un peuple viendra détruire la cité, le sanctuaire. C'est le peuple romain. Et sa fin sera la dévastation. Et après la fin de la guerre, la désolation sera décrétée. Le temple de Jérusalem est détruit depuis 2000 ans. Eh bien, qui est le nouveau temple? C'est Jésus. Mais là, vous voyez, il est tard, Donc je termine les dernières prophéties pour le temps de Noël. Voilà. Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Lève-toi, reçois la lumière, Jérusalem, parce qu'est venue ta lumière, et que la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Parce que voilà que les ténèbres couvriront la terre et une obscurité les peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur, et sa gloire en toi se verra. Et les nations marcheront à ta lumière, et des rois à la splendeur de ton lever. Du temps de notre Seigneur, des rois de petits royaumes, de petites villes, érudits, ayant lu les Écritures des Hébreux, vont croire que les prophéties de Daniel, de Jérémie, d'Isaïe sont accomplies, et vont de Michée, et vont partir parce que l'étoile qu'ils voient, ils la considèrent comme la lumière prophétisée. Et ils vont arriver à Jérusalem, et ils vont dire « Où est le sauveur du peuple hébreu dont nous avons lu les Écritures ?» alors qu'eux-mêmes n'étaient pas juifs, mais étaient les rois de petites cités. Et on les appelle mages parce que ces rois étaient érudits et qu'ils étaient versés l'astronomie et l'histoire, vous voyez, et les sciences. Et là, voyez-vous, dans le livre des Nombres, il est dit dans le chapitre 24, verset 17, qui est un livre bien plus ancien, « Il se lèvera une étoile en Jacob. » Dans l'Apocalypse, Jésus dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin. » Psaume 118, verset 22. « La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. » Les psaumes, on les attribue à David. Mais voyez-vous, il faut prendre les choses de manière chronologique. Je ne peux pas aller trop vite. Je parlerai de David la prochaine fois. Isaïe. « Cependant, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je pose dans Sion une pierre angulaire précieuse, établir pour servir de fondation. » Voyez, Daniel, chapitre 2, verset 44, « Mais dans les jours de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui jamais ne sera détruit, et son royaume ne sera pas donné à un autre peuple. » Le Christ roi. Je vais terminer parce que maintenant il est tard. Mais voyez-vous, la vie d'Isaac, les prophéties de Jacob, qu'est-ce qui se passe pour Juda? Au bout de quelques siècles, lorsque le peuple hébreu entrera en Terre Sainte, mais ça on en parlera une autre fois, le peuple hébreu veut un roi comme les autres nations. Entre Moïse et les années 1400-1200, et le roi David, s'écoulera environ 300-400 ans. Pendant ces années-là, le peuple hébreu va finir par venir en Israël, rejoindre la terre promise, mais la religion et la foi, voyez-vous, était conduite par les prêtres désignés par Moïse et descendants d'Aaron, de la tribu de Lévi. Mais il n'y avait pas de chef, c'était les patriarches, les chefs de tribu qui étaient les chefs de chaque tribu. Et voilà que les tribus demandent un roi. Et Dieu leur dit, mais je suis votre roi. Je vous ai donné les lois morales. Vous devriez les suivre sans avoir besoin d'une autorité centrale. Eh bien, c'est d'abord de la tribu de Benjamin que va être désigné le roi, Saül. Et comme Saül va être impie, c'est de la tribu de Juda que va être pris le roi David. Eh bien, les rois viendront de la tribu de David jusqu'à Jésus pendant 1000 ans. Malgré l'occupation, les guerres avec l'Égypte, avec les Grecs, avec les Romains. Et le chef, le roi du peuple juif, va être désigné en dehors de la tribu de Juda par les Romains. Et c'est du jour ou de l'année où il va y avoir la fin du règne de la famille de Juda et de la famille de David que Jésus va naître, accomplissant la prophétie de Jacob. Et c'est la raison pour laquelle il y avait une effervescence dans le peuple hébreu. Ayant Hérode, un nom juif, un nom tribu de Juda, comme roi, ils se sont dit, la prophétie va s'accomplir et le Messie va venir. Le prophète Michée avait dit que je crois que c'est Michée qui disait que toi, Bethléem et Ephrata, tu es une petite ville entre les 1000 de Juda. De toi sortira pour moi celui qui doit être le dominateur en Israël, et sa génération est du commencement et des jours d'éternité. Donc, ils savent pertinemment que le Messie, le Sauveur, naîtra de la famille royale de David et qu'il va naître à Bethléem. C'est pour ça que quand les rois mages arrivent et qu'ils demandent à Hérode « Mais où est le Messie ?» Il dit « Mais je ne suis pas le Messie, moi !» Et qu'ils demandent aux prêtres « Mais répondez-leur à ces rois !» Eh bien, il doit naître à Bethléem. Alors, les rois mages suivent l'étoile qui s'arrête au-dessus de Bethléem. Vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup de prophéties, beaucoup d'annonces, mais qui sont dans la foi d'Israël et du coup dans la foi chrétienne. Isaïe, mais on en parlera quand on parlera des rois d'Israël, avait annoncé 600 ans avant Jésus-Christ, le Seigneur lui-même donnera un signe au peuple juif. Voilà qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Bon. Et dans le livre des Nombres, la prophétie de l'étoile de Jacob se précise et dit « Il se lèvera une étoile de Jacob et il s'élèvera une vierge d'Israël. Et elle frappera les chefs de Moab et ruinera tous les enfants de Seth. » Seth, ici, c'est une descendance d'hommes pécheurs. Bon. J'aurais trop à dire, mais déjà, je pense que je vous ai fait un peu voyager dans le temps. Et pour vous dire justement que il y aura quand je vous reparlerai des rois et des prophètes, on va développer tout ça. Mais vous voyez, on ne peut pas faire ça en quelques minutes ou en une seule séance. On le fera de manière chronologique.